Bonjour à tous. Alors, entre chien et loup, opus du mercredi. Alors, je vais commencer tout de suite l'émission avec Clément Poiret qui a deux casquettes. Mais là, je vais demander de mettre la casquette de metteur en scène. Bonjour Clément.
Bonjour.
Alors Clément, j'ai vu, vous en doutez bien, Vania, ou le démon de la destruction. Alors, qui est quand même un projet un petit peu bouleversant pour ceux qui s'attendent à voir le Vania classique de mon copain Anton Tchekhov.
Oui.
Hein, on peut le dire quand même.
On peut le dire.
On peut le dire. Alors, on peut dire que parfois j'ai pensé que c'était Tchekhov chez Elsa Popine. Voilà. Ce qui est un compliment pour moi, hein. J'ai envie de dire tout de suite, voilà.
Je prends comme ça.
Tant mieux. Avec des comédiens formidables. Et c'est tellement déconcertant. Alors, on a parfois l'impression d'être dans un work in progress, n'est-ce pas? Je me suis entraînée toute la nuit pour vous le dire correctement. Alors, d'abord, comment est né ce spectacle, puisque vous êtes le metteur en scène,
oui.
et le créateur de ce projet un petit peu fou, si je comprends bien, c'est Mustapha.
Alors, en fait, c'est né de la façon suivante, c'est-à-dire que c'est né de Tchekhov. C'est né de Tchekhov parce que Tchekhov a écrit deux pièces de théâtre, une qu'on connaît bien, une qu'on connaît un petit peu moins bien, Oncle Vania, qu'on connaît bien, et Le Génie des Bois, qui est comme une première version de l'Oncle Vania qu'il avait écrit 10 ans plus tôt. Cette pièce est très déconcertante et c'est surtout le chemin que Tchekhov a mené de l'une des versions à l'autre qui est particulièrement étonnante. C'est-à-dire que il a écrit une première version dont il dit lui-même j'ai écrit une comédie bizarre, mais le ton général y est lyrique. Et en effet, on retrouve Vania, on retrouve les mêmes personnages, le médecin, Astrophe, mais de manière tellement différente, tellement plus dramatique dans cette première version, tonique, et on retrouve une pièce qui a une happy end, disons une happy end, je dis bien happy end, c'est-à-dire presque hollywoodienne, avec des grandes tirades lyriques, des retrouvailles amoureuses après un drame. Et puis 10 ans plus tard, il reprend les personnages se sont fatigués de vivre et il retire le drame et la pièce alors finit dans la tristesse. Ce chemin de pensée m'a tellement fasciné que je me suis dit qu'est-ce qu'on peut bien inventer pour pouvoir présenter au public ces basculements entre des histoires d'amour qui sont très vives dans la première version et puis qui se perdent dans la seconde parce que les gens n'en ont plus la force vitale, des suicides qui deviennent des ratages, et ainsi de suite. Et donc, la question était comment juxtaposer ces deux pièces de manière ludique, légère, et en même temps pour les jouer, pour présenter cette pièce qui suit le même fil, hein, mais qui fait des choix, avec un Tchekhov qui fait des choix radicalement différents, parfois sur des petites différences, et qui font basculer l'histoire complètement. Donc c'est tellement passionnant, aussi comme chemin vie psychique d'un auteur, que on a cherché un dispositif pour faire vivre ça et donc je me suis tourné vers deux acteurs amis que sont Mustapha Benaïbout et Louise Koldefi et je leur ai dit ça, est-ce que vous auriez envie d'incarner deux scénaristes. On fait fi de Tchekhov, on fait comme s'il n'avait pas existé et on a deux scénaristes d'aujourd'hui, deux auteurs d'aujourd'hui qui veulent construire une histoire et comme ça on a cette dialectique entre une autrice qui représente plutôt le Tchekhov de Oncle Vania et un auteur qui représente plutôt le Tchekhov de l'Esprit des Bois. Et donc on a ces deux auteurs qui sont là, qui sont qui se sont isolés dans une maison pour écrire et qui vont discuter, échanger et puis on voit petit à petit au cours de leur échange leur personnage, leur histoire s'incarner et envahir le plateau et d'une certaine manière, au fond, les quasiment les avaler, quoi, disons. Et avec cette possibilité en permanence de faire dialoguer.
On peut bifurquer à n'importe quel moment. Alors moi, ça m'a beaucoup fait penser à une pièce que j'ai beaucoup aimée, qui était Hollywood, où on parlait justement des scénaristes qui écrivent des choses, tout simplement, un troupeau de 300 000 vaches traverse avec des caravanes, et puis après, avec la production, dit non, non, on va réduire, on va réduire, on va réduire. Et là, ce qui est très juste, je trouve, c'est comment pour la personne qui écrit, les personnages parfois prennent le pouvoir. Et oui. Ça m'a rappelé quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Bernard Clavel avait écrit une magnifique série qui s'appelait Les colonnes du ciel, et il était avec des lectrices qui lui reprochaient énormément d'avoir sacrifié un personnage principal. Et dit oui, mais moi je n'y peux rien. Ça s'est passé comme ça. Et je crois que les gens qui n'ont pas écrit peuvent pas forcément comprendre, mais c'est tellement vrai. Et là, je pense que dans ce dispositif que je trouve très séduisant. Alors, moi, je l'ai vu il y a quelques temps, la semaine dernière à la première, le 15. Et là, il y a quelques jours qui sont améliorés. Bon, moi, j'avais trouvé que le dispositif était peut-être un petit peu long, mais je le redis, quand c'est une première, c'est une première. Donc, vous avez l'épreuve du public. Et après, il y a des choses sur le plateau qui se mettent en route. Vous êtes d'accord avec moi, Clément ?
Absolument, tout à fait. C'est-à-dire que avec un dispositif comme ça, que je dirais aventureux aussi, on avait absolument besoin de ce premier contact avec le public qui nous donne tellement d'informations, qui en fait, au fond, c'est le début du travail d'un spectacle, parce que ce travail il a lieu avec tout ce qu'on fait avant, et on se prépare à travailler, et le travail a lieu avec les acteurs, et donc c'est vrai que le spectacle évidemment se resserre, trouve ses rythmes devant le public, avec le public, oui. et grâce à lui.
Oui, mais la salle réagissait bien, il y avait beaucoup de rire. Alors, faut reconnaître qu'à un moment donné, on a carrément des Indiens, des peaux rouges, et je dois reconnaître que l'arrivée de John Arnold, qui fait cet horrible Alexandre, moi, vous savez, John. Coucou John, j'aime beaucoup. John m'a évoqué un petit peu entre Custer et le juge Wybin. Mais avec ses cheveux longs comme ça, mais je trouve qu'il a un côté Custer, voilà, c'est ça. Donc, oui. Alors, moi c'est un petit reproche que je vais vous faire. J'ai trouvé le spectacle extrêmement séduisant, donc moi je suis une femme un petit peu psychorigide. Alors je dis, Vania, bon, et vous dire que mon premier Vania, d'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai vu ça, parce que j'étais tellement jeune que j'ai pas dû comprendre grand-chose. C'était Michel Vitold, qui était un merveilleux comédien, et c'est un peu mon Vania de référence, mais j'aime bien qu'on me bouscule dans mes références, et j'en ai vu d'autres. C'est que j'ai trouvé que toute la première partie Vania, qui est interprétée par Thibault Lacroix, coucou Thibault, je l'ai vu débuter au salle, il est un peu terne, mais dans sa grande scène à la fin, il est absolument magnifique. Parce que on a envie de pleurer avec Vania. Parce que c'est tellement, c'est vrai que chaque personnage, à un moment donné, c'est pas du pathos, c'est que ces gens-là enfermés dans ce domaine, ont tous quelque part raté leur vie.
Ils ont cette sensation très forte d'avoir raté leur vie, ou que leur vie est passée, ou que leur vie leur passe sous les yeux au présent. Mais en tout cas, oui, il y a cette sensation, et cette sensation, parfois, elle est d'ailleurs, on se ment un peu, parce que on se dit, si j'avais eu ça, ma vie aurait été différente, j'aurais été un grand auteur, j'aurais été un grand artiste, j'aurais fait des choses magnifiques, et en fait, on a le droit d'en douter avec l'esprit de Tchekhov qui a cette particularité d'être, en effet, très tendre, c'est-à-dire cette humanité, elle nous touche malgré ses travers, malgré ses violences, parce que Vania est une pièce sur la destruction, l'autodestruction, la destruction des uns face aux autres. Combien on se fait du mal, combien on n'arrive pas à s'écouter, à s'entendre, et combien des fois on laisse cours à nos désirs peut nuire finalement, et même les personnes qu'on aime, Vania dans la pièce ne cesse de répondre à Elena, dont il se dit épris et dont il est certainement épris. Ce que vous dites ne m'intéresse pas, vous me dégoûtez, et c'est permanent.
Je tiens à dire que Clément parle de la pièce et pas à moi qui parle directement, hein. Je tiens à dire à nos auditeurs que vous parlez de la pièce, c'est pas à moi que vous dites tout ça. Vous ne m'intéressez pas.
Absolument pas. Absolument pas.
Est-ce que vous ne trouvez pas, Clément, moi ça m'a frappé un peu hier, je trouve qu'il y a vraiment une correspondance intime avec des fils peut-être intangibles avec la mouette. Parce qu'on a le suicide raté, on a ces gens qui ont du mal à s'aimer finalement. J'ai trouvé la correspondance vraiment très très forte.
Ah oui, bien sûr, c'est certain qu'il y a dans les pièces de Tchekhov, on retrouve des obsessions qui de la mouette à Oncle Vania, à Ivanov et ainsi de suite, très très fortes avec plusieurs choses, c'est-à-dire ces personnages qui fascinent Tchekhov, qui ont été merveilleux, qui ont brillé de mille feux, qui se sont engagés avec puissance, comme c'est le cas avec le médecin qui ressemble tellement à Tchekhov.
Oui, absolument.
Puisque Tchekhov, lui, était médecin aussi, les gens le savent. Et il était aussi un utopiste, et comme ce médecin qui plante des arbres, qui essaie de protéger les forêts, écologiste avant l'heure, hein, mais très, très...
Absolument,
c'est-à-dire,
bien sûr.
Sans aucun effort d'adaptation, on a un discours aujourd'hui extrêmement contemporain, qui était déjà les obsessions de Tchekhov lui-même, Tchekhov qui était médecin le jour, qui soignait les pauvres gratuitement, qui s'occupait en effet de planter des plantes, qui faisait construire des écoles, et qui le soir écrivait. Et après une journée comme celle-là, pour faire vivre toute sa famille, parce que Tchekhov avait toute une famille assez pauvre, c'est important dans la pièce, parce que ça, tout ça se sent, et à la fin de la journée, il écrivait une lettre où il disait « Aujourd'hui, j'ai encore été paresseux ». Donc cette histoire de paresse chez Tchekhov, il faut la comprendre dans son contexte réel, c'est-à-dire cette espèce d'épuisement des forces de vie qui font que à un moment, un homme flamboyant casse. Et puis, il n'est plus que l'ombre de lui-même parce que il s'est passé une série d'événements, peut-être un dernier événement, un dernier coup de marteau qui fait que, intérieurement, on n'a plus la force d'aimer, on n'a plus la force, de vivre. Et alors, il nous reste quoi? Des stratégies pour avancer.
Il y a un moment de rupture aussi, mais je voudrais qu'on parle des comédiens. Alors, moi, John, j'en parle pas parce que je ne peux pas être, objective avec John Arnold, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Louis Codelfi, je l'ai trouvé formidable. Elle m'a épatée, littéralement. Et pourtant, je l'avais déjà vue, mais vous savez, il y a un moment donné, où je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, on remarque ou vient en exergue un comédien ou une comédienne, je ne sais pas, mais il y a ce phénomène. Et là, je pense que dans sa carrière, ce rôle sera très important. Je l'ai trouvé vraiment formidable. Donc, vous lui adresserez tous mes compliments. Les autres sont très bien aussi. Et mais il y a un désespoir terrible quand cette pauvre Sonia dit « Je sais que je ne suis pas belle ».
Oui.
Et alors, très gentiment, Elena, qui est sa belle-mère, lui dit « Mais si tu es belle, tu as de très beaux cheveux ». Et là, ça m'a rappelé quelqu'un qui m'avait dit « J'en ai marre de la beauté intérieure. Moi, je veux de la beauté extérieure. Je veux qu'on me dise que je suis futile, mais que je suis jolie. »
Absolument.
Et c'est très beau. En tout cas, c'est un spectacle qui fait beaucoup parler. Donc, parce que ceux qui sont très, très, très étonnés ou interloqués par cette façon. Mais j'ai trouvé, entre Mustapha et puis Louise, une correspondance. Puis j'aime bien quand ils se disputent un petit peu, les deux scénaristes. On dit, mais tu ne veux pas faire ça quand même? Si, si. Et alors, les Indiens, on a carrément une... Mais on ne peut pas faire ça? Si, 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 on peut essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai bien vu un Shakespeare à l'époque du western et c'était extrêmement réussi. Donc.
et ce qui est amusant, c'est que dans ces jeux, on se recèle de scénaristes, donc qui sont des écritures de plateau, hein, qui viennent d'écritures de plateau entre Mustapha, Louise et puis ce qu'on a pu orienter. Ce qui est amusant, c'est que il y a beaucoup de Tchekhov là derrière, dit avec les mots d'aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple Tchekhov sur le fait qu'en effet ils aient des envies de western ou de dystopie, raconte que pour comprendre ces pièces, il faut comprendre ce qu'est la Russie du tout début du XXe siècle, où pour aller voir un patient, pour aller rencontrer même mondainement quelqu'un, il faut parcourir des kilomètres. Et c'est vrai que notre imagerie de la Russie avec ces gens un peu alanguis, bourgeois, etc., ne nous raconte pas ce que Tchekhov raconte, qui pour lui est déterminant pour quelle est la situation d'isolement, aussi de lutte avec la nature pure, ouais. Qui est la grande Russie. Donc en fait, à l'intérieur de ça, on s'est vraiment appuyé sur la correspondance de Tchekhov, sur ce que lui raconte. Il a beaucoup aussi répondu aux jeunes auteurs en leur donnant des conseils, etc., qui sont parfois de façon même pas voilée dans le spectacle, des citations pures de ce que Tchekhov lui en dit sur. Il reprenait beaucoup les jeunes auteurs russes sur comment ils écrivaient leurs femmes, comment les femmes étaient fades et sans vie, etc. Donc c'est très intéressant cette problématique dans sa bouche, et puis évidemment on la retrouve sur la place du réel, de la vérité dans l'art, etc. Tout ça, c'est des choses qui en fait dites de manière très ludique sont pleinement du Tchekhov. Alors c'est peut-être déconcertant, mais en fait c'est encore plus fidèle qu'on le croit. À ce qu'a dit Tchekhov, qui a d'ailleurs écrit une toute première version de ces pièces qui deviendront Clovania, qui n'a jamais abouti. Et cette version était en coécriture avec un ami à lui, et dont en effet ces échanges, il les a eus dans des lettres très drôles, ou comme on retrouve au plateau. Il disait à son co-auteur, oui, dis donc, lui, tu l'écris, il est très bien, il est très insupportable, les spectateurs le supporteront pas au bout de 2 minutes, c'est parfait. Par contre, celui-là, tu me le laisses, parce que tu comprendras jamais le ton du bonhomme. On avait une piste de décollage magnifique.
Mais vous venez de dire quelque chose de très important, Clément. C'est que Tchekhov est drôle. Or, je me souviens toute ma vie, où j'ai vu plusieurs fois de Tchekhov en russe. Je ne parle pas le russe, mais j'ai eu la chance, c'était un festival du théâtre russe qui a eu lieu à l'Odéon, et là où j'étais entourée de professeurs de russe et de russe, et j'étais sidérée de voir que, par exemple, il y avait des choses très drôles, et après je me suis intéressée à tout ça, et ce côté drôle n'a pas été véritablement mis dans les premières traductions, dans les premières adaptations. Donc, il y a des scènes toujours qui peuvent être très drôles, que ce soit dans la mouette ou dans la cerisée. Et ça, on a voulu... ça a été fait comme ça. Bon, on sait tous, et c'est bateau de le dire, que traduire, c'est trahir, quelque part. Mais il y a aussi le poids de l'époque. Hein, on peut dater une adaptation malgré tout c'est un peu comme le maquillage au cinéma. Si vous voyez la Cléopâtre d'Hollywood des années 30, vous savez que c'est un maquillage des années 30, et quand c'est Elizabeth Taylor dans les années 60, vous savez que c'est un maquillage des années 60, malgré tous les efforts qu'ils ont fait pour être dans. Et là, c'est un petit peu la même chose pour les traductions. Moi, je trouve que dans ce spectacle qui m'a laissé dubitative à certains moments, qui m'a énormément séduit à d'autres. Bon, après, je vous ai dit que je trouve que la mise en route est peut-être un petit peu longue, mais je tiens à le redire, je l'ai vu le soir de la première, donc il y a eu, je sais, des ajustements, voilà. Et je voulais savoir si Astrov, qui est un personnage que j'aime beaucoup, pourquoi vous l'appelez Michael? Est-ce que c'est par rapport à l'homme des bois?
C'est son prénom.
Oui, d'accord.
C'est son prénom, c'est vraiment, il s'appelle Michael Astroff.
Oui.
Et comme nous, on joue sur deux visions de la pièce, dans des géographies et des périodes différentes, on a gardé le prénom simplement qui était Epicène, qui pouvait passer de l'un à l'autre.
Oui.
Il s'appelle en effet Michael Astroff.
Mmh.
Et nous, on a pris l'habitude de l'appeler Astroff parce que c'est rentré dans notre esprit collectif. Il y a quelque chose comme ça, en effet, que vous avez évoqué très bien, c'est que, en fait, quand on monte Tchekhov, quand on aime Tchekhov, on se retrouve face au tchekhovisme, c'est-à-dire un ensemble de culture de la représentation de Tchekhov, qui a plein de vertus, mais qui prend le pas un tout petit peu sur ce qui est dit et auquel s'est heurté Tchekhov de son vivant, c'est-à-dire Tchekhov était très surpris. Parce qu'il disait, mais je ne comprends pas, moi j'ai écrit des comédies.
Exactement.
Alors, ouais. Alors parfois, quand on lit ces pièces, on dit, comédie.
Oui, d'accord,
dire, mais
oui, oui.
Mais il n'empêche.
La fin des trois sœurs, c'est pas vachement rigolo quand même.
Voilà, il n'y a pas que des moments rigolos dans les pièces, soyons honnêtes. Mais son regard acéré, cruel, drôle, il est permanent.
Mmh.
Et en fait, on a des attentes par rapport à ça, parce qu'on a des attentes qui sont liées à un siècle et demi quasiment maintenant de représentation, et d'une représentation qui est aussi la représentation d'une certaine Russie, d'une certaine et donc des idées qu'on se fait, et finalement dont il est difficile de se départir, et dont parfois on a l'impression qu'il faut un tout petit peu secouer le cadre pour mieux entendre le rapport au monde, les phrases, le rapport au monde de Tchekhov, qui est particulièrement déconcertant, c'est un auteur qui, par certains aspects, contrairement à l'image qu'on en a, il y a des moments vraiment de grande douceur, et comme il le dit lui-même, il dit un moment dans une de ses lettres, il dit, je mène l'intrigue tranquillement, doucement, et à la fin de l'acte, paf, dans la gueule du spectateur. C'est ces mots, c'est pas moi qui invente, y compris le paf.
J'ai trouvé, excusez-moi Clément, j'ai trouvé très judicieux et très intéressant, c'est qu'au tout début, on ne fait un tableau avec qui est qui. Avec les personnages, avec des liens, des petits cœurs, et je pense que ça a éclairé beaucoup de spectateurs, parce que j'ai discuté avec une jeune femme qui voyait pour la première fois son oncle Vania, et elle me dit heureusement qu'ils nous ont fait ça, parce que sinon j'aurais été complètement perdue, qui est qui. Alors, Alexandre, Sonia, et ça j'ai trouvé que c'était tableau d'école, ça m'a beaucoup fait rire.
Oui, c'est drôle, et en même temps c'est intéressant pour une chose, c'est que cette scène, ce descriptif de la famille dans laquelle on est, existe exactement de la même manière chez Tchekhov, sauf que c'est un personnage qui le dit à un autre, dans une scène d'exposition pure, c'est-à-dire un personnage entre dans la pièce, on lui dit « alors comment ça va ?» et il décrit exactement ce que dit, c'est-à-dire on a tout simplement paraphrasé le texte, voire cité le texte, sauf que c'est un auteur qui l'écrit au tableau. Mais ce que je veux dire, c'est que Tchekhov, il a cette manière absolument extraordinaire de ne pas s'embarrasser.
Oui.
Il a besoin de donner un certain nombre d'informations, et l'une des choses dans laquelle Tchekhov est un peu enfermé, c'est le réalisme psychologique. Et ben en réalité, dans ses processus d'écriture, il est beaucoup plus abrupt que ça. Il a besoin de ces informations, il ne veut pas en donner plus. Il veut juste donner ce dont on va avoir besoin pour le faire. Et ben, il le fait, il fait une scène qui est très à droite. Alors nous, on l'a légèrement décalé, mais c'est exactement la même. Où il dit, un tel, il est comme ça, il est insupportable. Un tel, tout est dit.
La pièce
commence, tout est dit.
C'est
formidable, parce qu'après, on n'a plus qu'à voir comment ça se développe et c'est le comment. Et donc, c'est toujours amusant, c'est-à-dire qu'avec un tout petit décalage, en donnant Tchekhov, les gens le reçoivent très différemment. Mmh. C'est-à-dire cette première scène où Tchekhov donne une série d'informations, si on fait ce petit décalage, personne ne croira même que c'est la structure exacte de Tchekhov. C'est cette chose-là qui est plaisante aussi et ludique, c'est-à-dire en effet on déplace quelque chose et on permet peut-être aussi aux spectateurs de se réinterroger sur ce qu'ils voient. Et entendre peut-être réentendre parce que il y a beaucoup de gens qui découvrent
le Tchekhov.
On a toujours, nous gens de théâtre, on a l'impression que on connaît bien ça, mais il y a beaucoup de gens qui redécouvrent. Mais puis il y a aussi des gens qui connaissent, et parfois ça vaut le coup de réentendre ces scènes un tout petit peu
avec un décalage. Moi j'ai l'impression que vous êtes respectueux avec irrévérence.
Eh bien, disons que ce que je sais, c'est que ce qu'on se dit souvent en répétition, c'est plus d'amour, moins de respect.
Ah, c'est très joli. J'aime beaucoup.
Ce qu'on respecte, si on respecte une culture, ce dont on est sûr, c'est que ce spectacle est construit sur un amour fou pour Tchekhov et pour ses pièces et pour ses personnages et pour ce qu'il raconte de cru, dur sur l'être humain et notre incapacité à nous entendre et notre trop grande capacité à nous détruire.
Alors j'ai une suggestion à faire parce que au théâtre de la Tempête, il y a un personnage extraordinaire qui est celui qui tient le bar, qui est Didier.
Je vois de qui vous parlez.
Qui est un personnage vraiment que j'aime beaucoup. Et alors je suggérais que pour être dans la veine tchékovienne, il y ait du hareng, des cornichons et de la vodka. Parce que dans certains textes de Tchekhov, justement, dans certaines lettres, on voit que c'est très très important pour lui d'avoir du thé russe qui est très différent, samovar, voilà. Donc moi je suggérais ça à Didier. J'ai pas pensé quand je l'ai vu. Mais vous avez de la chance parce que je dois dire que c'est un personnage qui est très aimé, très apprécié, qui me fait mourir de rire parce qu'il aime son théâtre et donc il est anxieux.
Il aime l'accueil.
Ah oui, il est anxieux. L'autre jour, il était anxieux pour la navette. Il dit oh là 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 là, mon Dieu, mais est-ce que ils vont la voir? Clément, je vous remercie infiniment.
Merci à vous.
Voilà,
merci
donc beaucoup. Donc Vania. Against Vania, le duel du siècle. C'est actuellement au théâtre de la Tempête. Alors, il faut, voir, pour moi qui habite loin, il faut l'amour chevillé au corps pour venir. Donc, c'est.
Mais une belle navette. On peut arriver au métro, une petite navette, vous en faites.
Oui, c'est ce que je voulais te dire. Moi, je suis obligée de prendre ma voiture. Mais c'est du mardi au samedi à 20h. Le dimanche, c'est à 16h, c'est ça?
C'est ça, exactement.
C'est ça, voilà. Et il va y avoir bientôt un autre spectacle qui va commencer, non?
Absolument, on va commencer Vanish, qui est une pièce sur la mer et sur le rêve de marin d'un homme qui part seul dans la mer. C'est un très beau récit de marine, une très belle pièce montée par Lucie Berelovitch et on l'attend avec impatience.
Qui a beaucoup de talent. Alors moi je fais une suggestion au directeur de la Tempête. Est-ce qu'il pourrait y avoir un jour où on pourrait voir les deux pièces le même jour?
Ah,
ça serait formidable. Vraiment, vraiment, ça serait
bien.
On
y pense.
Hein, voilà. Donc, attention Clément, vous êtes cerné par moi. La prochaine fois que je vous vois, je vous en reparlerai et je peux être insupportable.
D'accord.
Merci infiniment Clément.
Merci.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Oui, absolument. Merci, au revoir.
Au revoir.
Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Oh, et si j'étais riche? Oh, et si j'étais riche? Aide-moi! Hey, adieu la charrette! Tous les jours j'ai riche, dado moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits, sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma cour des oies, des coqs et des poules. Toute la ville m'envierait, car ça piaillerait, ça caquetterait. Et chaque quoi sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Si j'étais riche, si j'étais riche, moi, tiens la charrette, si j'étais riche, moi, je vois ici. Ma gauve, belle comme une bourgeoise avec un double menton. Nous faisons manger tout ce qui lui plaît. Je la vois se pavaner avec sa robe à traîne. Oh mon Dieu, quelle dignité! Même quand elle dispute les valets. Les plus gros bonnets de la ville me feraient des courbettes. Ils me demanderaient conseil. Oh, ma Salomon le sage, s'il vous plaît, Rebbe Tevye.
Excusez, Rebbe Tevye.
Mille problèmes à coller le grand rabbin. Boy, 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 boy. Boy, 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 boy. Que je dise blanc, que je dise noir, il faudra bien me croire. Quand t'es riche, tu as toujours raison. Si j'étais riche, j'aurais enfin tout le temps d'aller prier à la synagogue. Assis au premier rang où je verrai bien, et je discuterai la loi avec les anciens, au moins 7 heures par jour, dans la réflexion et dans l'amour. Si j'étais riche, tous les jours je moi, si j'étais riche, moi, la charrette, Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'aurait donné du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche, moi?
Voilà, nous venons d'entendre un extrait du violon sur le toit. Bah oui, ça s'imposait qu'on reste un petit peu sur en Sainte Russie. Voilà, il n'y avait pas Poutine à l'époque, mais il y avait des tsars. Et, c'était moins bien, mieux bien. Vous savez que Poutine, on surmonne le tsar. Mais enfin voilà, un violon sur le toit qui a été une comédie musicale. Qui a été une comédie musicale au succès phénoménal et le film était vraiment formidable. C'est la rentrée de plein de choses et entre autres des bandes dessinées. Alors il y en a une qui s'appelle Bertille et Bertille, l'étrange boule rouge, c'est de Eric Stalner. Alors on est, bon, après la Grande Guerre, la guerre de 14-18, on est en France dans les années 20. Et nous avons le commissaire Bertille. Alors, le commissaire Bertille, il est massif, tout ça. Et on arrête un petit malfrat dans un café. Mais quand il dans, au bord de leur voiture, ils rejoignent Paris pour la préfecture, et sont, leur course est interrompue par une boule rouge qui traverse la route et qui va s'écraser. Alors cette boule rouge a un côté complètement hallucinant, littéralement, on se demande vraiment ce que c'est. Et en allant voir cette chose incroyable, c'est une très grosse boule rouge, hein. C'est pas une balle de golf ou de tennis, non, c'est quand même quelque chose qui fait plus d'un mètre. Il découvre une jeune femme, donc on est vraiment dans les années 20, qui est tout à fait ravissante et qui s'appelle Bertille aussi, voilà. Alors, a priori, entre le commissaire et Bertille, qui est en plein dans les années folles, il n'y a pas grand-chose pour les rassembler. Et petit à petit, il va y avoir des choses qui vont se passer, entre autres la boule rouge n'arrête pas de grossir. Qu'est-ce que c'est? C'est en quelle matière? On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas en quelle matière ce c'est, on ne sait pas comment ça va. Et notre commissaire Bertille, lui, a affaire avec une sombre histoire où le pouvoir est impliqué. Alors, et la particularité de cet album de Eric Stallner, c'est aux éditions Grand Angle, c'est qu'on est dans des gris, des noirs, et seule la couleur rouge est présente. Que ça soit notre boule rouge, mais que ça soit sur les vêtements, ou sur les carreaux du sol, du pavement. C'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment une approche un peu fantastique. Moi, j'ai pris énormément de plaisir parce que je trouve que c'est vraiment un album tout à fait formidable. Alors, je tiens à le redire que la bande dessinée, c'est pas que les petits Mickey, c'est bien autre chose et c'est tout à fait incroyable de ça. Alors, on est dans les années 20, mais on y pense quand même si le commissaire Bertille n'a pas affaire à lui. Mais on va passer, parce qu'on l'aime beaucoup, la chanson du gentleman cambrioleur, chantée par Monsieur Jacques Dutronc.
C'est le plus grand des voleurs, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur, votre sommeil, il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur, est un vrai seigneur.
Comme je vous le disais, cette rentrée est très riche, que ça soit en exposition ou je vous parlerai la semaine prochaine de la formidable exposition sur Frida Kahlo. Frida Kahlo, c'est un peintre mexicain, mais dans la vie est absolument mais incroyable. Et au musée Galliera, il y a une exposition formidable qui retrace la vie de Frida Kahlo. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il y a des robes, parce que le musée Galliera, c'est vraiment le musée de la mode, des robes que portait Frida Kahlo. Et ce personnage incroyable, improbable, qui a fait des peintures. Moi, je ne suis pas une fan de son art graphique. Il y a certaines peintures qui me touchent. Et cette femme qui a eu un accident où elle aurait dû mourir 1000 fois, portait un corset qui la tenait droite parce que sinon elle s'effondrait et qui avait une barre de sourcils comme ça, très très épais. Elle a fait partie de la révolution mexicaine. Elle était impliquée. Elle est venue à Paris. Elle a rencontré énormément d'artistes. Elle a été en Angleterre. Elle a été aux États-Unis. Donc c'est un personnage tout à fait incroyable et on en parlera la prochaine fois parce que c'est une grande exposition à voir. Au musée du Luxembourg, il y a l'exposition sur Dresde. Dresde, un musée avec des trésors tout à fait extraordinaires. Nous avons tous été très déçus par cette exposition, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, il n'y a pas beaucoup d'œuvres, c'est dommage. Et surtout, on a été un petit peu exaspérés par des affichettes, le point de vue du musée, où on nous a expliqué en long, en large et en travers que l'esclavagisme, c'est pas beau, que le racisme, c'est pas beau. Entre autres, parce qu'il y avait des personnages d'esclaves, on nous expliquait que, à l'époque, l'Européen se trouvait supérieur à l'homme noir, et que, donc, ou les indigènes, et qui faisaient des choses qui étaient pas belles. Oui, merci, mais on est au courant quand même. Et donc, on expose des pièces magnifiques en ivoire. Alors, vous savez que maintenant, on n'a plus le droit, théoriquement, hélas, d'abattre des éléphants pour leur ivoire, et que les gens qui, pour des œuvres d'art, pour les restaurateurs, ont des réserves où ils ont droit d'utiliser certaines matières qui sont carrément interdites, mais il y a des fonds qui existent, voilà, et hélas, il y a des salauds qui chassent ces pauvres bêtes et qui les tuent, enfin, bon, voilà, c'est des gens, ils méritent même pas de vivre, bon, voilà. Mais on nous explique que, alors, ils sont posés la question, est-ce qu'on expose l'ivoire? Est-ce qu'on n'expose pas l'ivoire? Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on va... Bon, voilà, des atermoiements un petit peu cucu, je dois reconnaître, donc voilà. Et je pense, personnellement, et nous sommes plusieurs à le penser, que ces œuvres, elles existent. Que, au contraire, c'est bien de les montrer, parce qu'il y a un art de la gravure absolument époustouflante, mais surtout d'expliquer les souffrances qu'il y a de l'animal, et que c'est interdit, et qu'il faut combattre ces gens immondes qui tuent, que ce soit les éléphants, les rhinocéros. Savez-vous que dans les zoos, on préfère scier la corne des rhinocéros pour qu'on ne vienne pas enquiquiner ces pauvres bêtes. Voilà, c'est ça. On va faire une autre pause musicale. Alors, c'est une pause musicale mystère. Et ceux qui trouveront ce que c'est, téléphoneront ou m'enverront sur mon site la réponse et vous pourrez gagner un album. Oh, qu'est-ce que vous êtes gâtés quand même. Bon, voilà. On écoute tout de suite la pause mystère. Shine. Vous avez trouvé? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est un chanteur qui a beaucoup, beaucoup d'élégance. Allez, son prénom, c'est Alain. Je vous le dirai la semaine prochaine. Autre coup de cœur pour un album que j'ai trouvé sublime. Tout simplement sublime. Ça s'appelle Autonne en baie de Somme, Philippe Pédéaz et Alexis Chabert. Alors, on se trouve là plutôt à l'époque de Paris, ça commence comme un roman noir, puisqu'on a quelqu'un qui est dans un bateau qui est échoué en baie de Somme et qui a été torturé à mort. Et nous avons un commissaire, l'inspecteur Broyant, par exemple, qui vient pour enquêter. Or, il se trouve que le cadavre est celui d'un industriel, on aura appelé ça un chevalier d'industrie, d'une très grande famille. Et donc, l'inspecteur voit tout de suite sa veuve comme étant la femme idéale pour se débarrasser de ce mari un petit peu dérangeant. Et il y a quelque chose qui l'interloque, c'est qu'aux funérailles où il y a le banc et l'arrière-banc de l'aristocratie, des notables du coin, il y a un groupe d'ouvriers qui sont en pleurs et qui viennent débosser une gerbe sur le tombeau parce que c'était quelqu'un qui était très proche de ces ouvriers. Nous voilà transportés à Paris. Alors, c'est découpé en chapitres. Et on est dans le monde de la peinture, puisque nous sommes dans l'atelier de Mucha. Mucha, dont les peintures ont servi énormément à la grande Sarah Bernhardt, mais il a fait, entre autres, Les Saisons, dont L'Automne, et son magnifique mannequin. Ce magnifique mannequin, elle, va être sollicitée par un jeune peintre qui veut... Là, il faut dire qu'elle est magnifique, elle a une parure rousse qui descend jusqu'au creux des reins et c'est vrai qu'elle est d'une beauté magnifique. Mais l'inspecteur, lui, continue de faire son enquête. On nous emmène là où il y avait encore des moulins sur la butte Montmartre. On est en train de construire l'église, mais elle n'est pas encore construite, mais on la voit. Et il est dans un Paris entre travaux et il y a des apaches, il y a naturellement normal. Alors ce que je voulais dire, c'est que le dessin nous évoque des œuvres d'art. Il y a par exemple il y a deux hommes qui sont sur un balcon et qui considèrent Paris. Bon, ça c'est du caillebotte pur, voilà. Il y a naturellement l'évocation de Mucha, mais pour une soirée dans le grand monde, on pense à Gervex. Voilà, il y a plein d'œuvres, où on pense aussi à James Tissot. Il y a des références picturales qui sont très bien faites. C'est magnifiquement bien dessiné. Le scénario, on est complètement embarqué dans cette histoire. Et franchement, je vais vous dire, quand j'ai commencé... Alors, je reviens parce qu'il y a un portrait où nous avons la belle mannequin qui est complètement nue et qui est absolument magnifique, où ça évoque, je crois que c'est de Castellane, voilà, un très beau portrait d'un dandy. Je crois que c'est ça, on ne m'en voudra pas si je me trompe. Alors vraiment, bravo, parce que c'est Paris en 1900, avec sachant qu'il y avait peut-être beaucoup de choses, mais il y avait aussi des preuves. Mais c'est magnifique, c'est vraiment à voir, à dévorer. Et alors, c'est Bambou Édition. Le grand angle, moi je soutiens beaucoup Bambou parce que ils ont quand même tous leurs albums répond au processus de développement durable engagé pour du papier avec des forêts certifiées. Voilà, moi je leur dis bravo, c'est magnifique, vraiment vous allez vous régaler avec ces deux albums un peu différents, puis finalement c'est assez amusant d'avoir le Paris de 1900. Puis après, le Paris des années 1920 et quelques, avec deux héroïnes flamboyantes. C'est vraiment... on aime quand c'est ça. Alors, je fais du rattrapage, parce que au Châtelet, je suis allée voir Watch. Watch, c'était un projet complètement improbable et généreux. C'est-à-dire qu'on a demandé à des gens qui ne sont pas du tout des artistes, de faire un spectacle. Alors, il y a le centre pénitentiaire de Meaux, il y a également des gens qui représentent le SAMU social, il y a des EHPAD, plusieurs EHPAD, il y a des unités mobiles de soins, voilà, et puis il y a des classes, voilà. Et donc, on a réussi à faire un spectacle qui tient. Avec des gens, on se dit, mais ils sont formidables, ces prisonniers. Et on se dit que, décidément, l'art, la musique, ça peut sauver beaucoup de choses. Et il faudrait que ça soit un peu plus compris. Alors, c'est très généreux. Donc, ça a les défauts de sa générosité. Entre autres, c'est quand même trop long. Je dois le reconnaître, c'est vraiment trop long. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a un orchestre sur scène et surtout, le théâtre du Châtelet était absolument plein. Voilà. Donc, on se dit, bah oui, qu'il y a de l'espoir. Moi, je trouve que ce spectacle donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'entrain, et ça, c'est formidable. Donc, c'était au Châtelet, mais je voulais à tout prix en parler. Et puis, il y avait des gens qui venaient de tout, vraiment d'horizons tellement, tellement différents, de Hortense à Wassine, de Rachid Sakoui, qui est d'ailleurs formidable, ou à Tarek, ou à Marie-Thérèse, ou à Germain, voilà. Il y a plein de choses qui se passent pendant ce spectacle. Et quand je vois des spectacles comme ça, ben, ça me donne foi en l'humanité. Je trouve que c'est pas mal non plus. La semaine prochaine, on vous parlera du Menteur de Corneille. La mise en scène est épatante, c'est tonique, c'est admirablement bien joué. On parlera également filiation, certainement, parce qu'il y a une génération de Bierry, c'est au Poche Montparnasse. Le Poche Montparnasse a été très longtemps le théâtre d'Étienne Bierry et de Madame Delmas, et on verra ce qui se passe. C'est tonique, c'est drôle, c'est formidable. Donc, on vous parlera de plein de choses, d'autres expositions, et puis des pépites qu'on a rassemblées dans nos lectures. Voilà, il est temps de nous quitter. Jusqu'à la semaine prochaine, rendez-vous, n'oubliez pas, avec Balade Musicale, tous les jours, et moi, ça sera samedi à 11h, avec ma playlist PLAIT, des musiques que j'aime. Voilà, merci beaucoup à Francky pour sa réalisation tonique et pimpante, comme d'habitude. On se retrouve donc en fin de semaine. Au revoir et surtout, sortez, il y a tellement de choses à faire.